BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est votre séance cardio de l'après-midi, bienvenue à tous, on vous accompagne jusqu'à 18h au rythme des marchés, avec en fil rouge, il est là, Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Retour de balancier, là on a des indices plutôt dans le rouge, le CAC 40, moins 0,57%, 8162 points, Wall Street dans le rouge aussi, moins 0,38% pour le S&P 500. Pour la petite anecdote, on avait Virgin Galactic qui a gagné plus de 50% en quelques jours parce que tout le monde se rue sur tout ce qui rime avec espace dans l'espoir de l'introduction de SpaceX. Et ben le titre perd 40% aujourd'hui parce que visiblement certains investisseurs se rendent compte qu'ils s'étaient bourrés, que c'était pas SpaceX.
C'était oui.
Non mais
ils ont confondu les tickers quoi.
Non mais ça arrive. Ça arrive des choses comme ça.
Oui, et ça fait partie de la bourse. Hein. Voilà. La bourse, c'est la vie. Ben, c'est la vie dans toutes ses dimensions, pas forcément toujours les plus flatteuses pour les investisseurs. Mais voilà, les marchés qui reculent en tout cas aujourd'hui, avec en plus le retour de la menace tarifaire. Washington brandit 10% de droits de douane supplémentaires sur un certain nombre de pays. On va revenir. Enfin, on comprend aussi la respiration du jour, notamment aux États-Unis, du fait des hausses hein, qui se sont enchaînées. On sort de 9 hausses d'affilée sur le S&P 500. Et donc, Valeo, la surprise du jour, Valeo gagne 17%, peut-être un futur gagnant de l'IA, figurez-vous, et même Valeo. On vous expliquera pourquoi. Ce soir, c'est Broadcom qui annoncera ses résultats aux États-Unis. Et puis SpaceX, vous parliez d'espace, Antoine. SpaceX s'introduira sans doute dans une grosse semaine, sans doute en toute fin de semaine prochaine. Eh bien, d'après Reuters, SpaceX compte proposer des actions à $135 l'unité. $135 par action. Donc, la tournée des investisseurs de SpaceX doit a priori débuter demain. Et si effectivement cette tournée débute demain, cela confirmerait la date de 12 juin, a priori, pour les premières cotations. On va en reparler. Toutes les batailles de marché sont dans BFM Bourse. Mais on suit aussi sur BFM Business l'ensemble des grands actus à suivre. Par exemple, aujourd'hui, Emmanuel Macron qui salue une nouvelle ère pour la Hongrie et l'Europe en recevant le nouveau Premier ministre hongrois, Peter Magyar. Ce dernier a proposé une coopération plus resserrée entre la France, l'Allemagne et les pays d'Europe centrale. La présidente de la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours, elle, le déblocage de plus de 16 milliards d'euros destinés à la Hongrie et gelé sous Viktor Orban, sous condition de réforme du nouveau dirigeant. En Europe toujours, dans le souci de réduire sa dépendance aux technologies américaines, le Parlement européen annonce qu'il abandonne Google au profit du moteur de recherche français Quant. On attend aussi des mesures de Bruxelles concernant les puces, les services de cloud et l'IA dans le cadre de l'action Buy and Use European. Et notez à ce propos que le directeur général de Google France, Sébastien Mizoff, sera l'invité demain matin de Laure Closier à 7h45 sur BFM Business. Et puis le dépistage de l'exposition au cadmium en laboratoire de ville va être remboursé pour les patients à risque à partir du 16 juin. Décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, publiée au journal officiel. Le test de dépistage pourra être prescrit par un médecin aux personnes potentiellement surexposées du fait de leur lieu de résidence et à celles surveillées pour une intoxication chronique au cadmium, précise le texte. Plus d'infos avec Edwige Chevrillon, ce sera à 18h. D'ici là, on est à vos côtés. Bienvenue à tous, c'est BFM Bourse, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Antoine, donc c'est une séance de respiration un peu partout aujourd'hui.
Oui, pour le CAC 40 qui perd 0,6%, 8159 points. Alors les raisons de cette respiration, c'est aussi à regarder du côté des marchés obligataires et du marché pétrolier parce que ça se tend à nouveau assez sensiblement, 3,64 pour la dette à 10 ans française. On est repassé au-dessus des 3% pour la dette à 10 ans allemande, 3,01 et 4,48 pour le 10 ans américain. Le pétrole, $97 pour le baril de Brent de mer du Nord, 94,64 pour le brut léger américain. C'est pas une poussée de fièvre, mais bon, le signal de tension est là quand même. Et du côté des valeurs du CAC 40, ben, on semble vouloir privilégier les secteurs plus traditionnels. Alors l'énergie, bien sûr, avec Total qui gagne 1% à 77,43, Engie qui prend 1,2% à 26,93 €, mais on le voit dans les orientations, c'est vraiment ce qu'on appelle les valeurs ennuyeuses, hein, finalement, les valeurs de rendement, les valeurs d'infrastructure. Air Liquide tient plus forte hausse, plus 1,7%, 179,50 €. On a Danone, plus 1,66 à 65,10 €. Et puis sinon, à la baisse, à noter un repli marqué du secteur auto. Dans le sillage, d'ailleurs, des chiffres de vente de Ford, qui n'étaient vraiment pas très très bons du côté de Wall Street, d'ailleurs. Stellantis, moins 4,3%, 6,34 €. On a Kering, qui perd 2,75 €, qui vient s'intercaler à 247,40 €. Mais Renault est pas loin, moins 2,5 €, 27,32 €. La seule exception, c'est Valeo, là, qui prend 17,3%. à 16,49€ avec JP Morgan qui estime donc que l'entreprise serait bien placée aussi pour se positionner sur le marché de l'IA grâce à ses systèmes de refroidissement.
Et on va regarder ce titre, effectivement. Valeo, c'est la surprise du chef. Thibaut François est avec nous pour en parler. Fastia, bonjour Thibaut. Vous le voyez, ce titre, vous le voyez, c'est impressionnant. La Valeo gagne aujourd'hui 17% d'un coup d'un seul. On n'y est pas habitué, franchement. C'est digne d'une tech américaine. En plus, 17%. Valeo, d'après JP Morgan, sera un gagnant de l'intelligence artificielle. Leur système de refroidissement de batterie pourront servir aussi au refroidissement des data centers, nous dit JP Morgan. Alors ça, Valeo plus 17, vous avez envie d'y croire aussi?
C'est une nouvelle, effectivement, une nouvelle activité. C'est plutôt bien joué de leur côté, parce qu'effectivement, le marché de l'auto est quand même sinistré depuis quelques trimestres, voire quelques années. C'est vrai que se diversifier, trouver des autres systèmes pour s'intéresser à d'autres secteurs, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Effectivement, les refroidissements de data centers, ça va vraiment le vent en poupe. On a deux CRSI, notamment, qui est un petit peu sur ces sujets-là, même s'ils produisent aussi la partie data center. Mais en tout cas, ils sont sur cette thématique de refroidissement de tout ce qui est data center. Donc, c'est une bonne idée, forcément, pour Valeo. Alors, est-ce que ça va se concrétiser dans les chiffres? Ça va être dans les prochaines publications. Mais en tout cas, ça me surprend pas que le titre réagisse fortement à la hausse. On a vu les publications et surtout, on a vu les rythmes de croissance pour tout ce qui est lié autour de l'intelligence artificielle et des data centers. Donc, c'est vrai qu'en plus, si Valeo en profite avec une valorisation qui est vraiment assez faible sur le dossier Valeo, c'est vrai qu'on ça laisse potentiellement pas mal de plus-value sur le dossier Valeo.
On voit à quel point cette thématique de l'IA, alors il faut pas qu'on se laisse trop aveugler non plus nous, hein, mais voilà, sur les marchés en tout cas, elle est en train d'infuser, de s'élargir à plus en plus d'acteurs qu'on n'avait pas forcément soupçonné comme ça de prime abord. Vous citiez aussi deux CRSI, je vous avais pas demandé d'en parler, mais il se trouve que c'est une valeur sur laquelle nos auditeurs nous interrogent beaucoup, c'est un carton. Vous pensez qu'il y a encore du potentiel sur un groupe comme deux CRSI?
Ben en fait, le problème, c'est que la valorisation n'est plus le sujet aujourd'hui. Donc, ils révisent tellement à la hausse leur chiffre d'affaires pour les prochains trimestres, parce que c'est presque sur tous les trimestres qu'ils révisent en hausse. On attend des méga contrats, notamment en Europe, qui seront donnés à des Européens, et il n'y a pas 50 acteurs dans la partie data center. Donc c'est vrai qu'ils pourraient encore obtenir des gros contrats. La valorisation vient de franchir les 1 milliard d'euros, donc c'est génial pour la boîte. C'est pas du tout impossible que le momentum reste extrêmement favorable et que le titre en profite encore dans les prochaines publications. Donc vu que la valorisation ne rentre pas en ligne aujourd'hui, je pense qu'effectivement il y a encore du potentiel pour ce type d'acteur un petit peu spécialisé sur l'intelligence artificielle.
Vous pensez que forcément à un moment il y aura une force de rappel sur les valorisations ou pas forcément? Je vous pose la question parce que ça fait des années que le secteur bancaire par exemple est sous-coté. Ça n'empêche pas de rester sous-coté, c'est-à-dire que pour un secteur comme celui-là, la valorisation, ça fait bien longtemps que ça compte plus et on voit que ça continue à ne pas compter. Est-ce que pour ces valeurs qui au contraire cartonnent à la hausse, la valorisation pourrait durablement encore ne pas compter?
Durablement, je sais pas, mais il va y avoir forcément à un moment donné une force de rappel.
Je sais pas.
C'est-à-dire que ça peut pas.
On l'a pas vu sur les banques, on l'a toujours pas vraiment vu sur les banques. Alors pourquoi on le verrait sur les acteurs de la tech?
Ouais, mais les banques en fait gagnent. En fait, il y a un petit peu de rendement, c'est-à-dire que effectivement le secteur enlève 5-6% de rendement tous les ans, ça monte un petit peu. Donc effectivement, les valorisations ne montent pas parce que les bénéfices continuent à croître et le titre croit un petit peu moins vite. Donc effectivement, on a une valorisation qui se tient. Effectivement, je suis d'accord avec vous, le secteur bancaire, ça râle les pâquerettes depuis des années. Maintenant, le secteur tech, quand ça fait x2, x3, on le voit, par exemple, STM qui fait x3, on a Soitec qui fait x6 ou x7, on a des deux CRSI qui font x2, x3, à un moment donné, la croissance, elle va à un moment donné, il va falloir qu'elle suive. Si effectivement, elle ne suit pas au même rythme que les cours de bourse, il va y avoir une incohérence totale. Donc forcément, il va y avoir une force de rappel à un moment donné, mais tant que le momentum reste positif et que les flux sont dirigés vers l'intelligence artificielle, c'est vrai que les investisseurs et les financiers vont chercher à mettre leur cash dans le secteur.
Mais la question que je me pose, c'est pour toutes ces valeurs qui cartonnent à la hausse parce qu'il y a une croissance incroyable de leur business, le jour où il n'y aura plus cette croissance, on va reperdre les gains actuels ou on va juste arrêter de voir ces titres monter? Enfin, c'est pas pareil pour l'investisseur. Est-ce qu'on va forcément voir une rechute ou juste l'arrêt de la hausse?
Ah ben, forcément, on va voir la chute. Je prends des exemples français. Ils sont très simples. Dassault Systèmes, avec l'intelligence artificielle qui est arrivée, c'était une boîte. Enfin, c'est toujours une boîte fantastique. Hein, je ne vais pas dire que c'était une boîte fantastique. C'est toujours une boîte fantastique. Le problème, c'est que le momentum est passé négatif sur l'ensemble du secteur des logiciels, alors que les niveaux de rythme de croissance étaient toujours élevés. Mais à un moment donné, la valorisation était tellement stratosphérique qu'un tout petit peu moins de croissance attendue dans les prochains trimestres, bam, c'est directement la sanction sur Dassault, sur ouais. Dassault Systèmes. On l'a vu sur Téléperformance aussi. Téléperformance, le titre a été divisé par 5 ou 6 sur les 2 ou 3 dernières années, alors que le rythme de croissance est toujours là. C'est-à-dire qu'on fait toujours plus de croissance et de marge par rapport à il y a 2 ou 3 ans, mais par contre, les niveaux de valorisation ont été divisés par 5 ou 6. Donc attention au momentum, le momentum est extrêmement positif sur l'intelligence artificielle, tant que c'est le cas. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à se laisser porter.
Oui, c'est comme l'ascenseur. Hein. Pourquoi choisir de ne pas le prendre? Bien sûr qu'il y a un plafond, mais ça n'empêche pas de le prendre de temps en temps. Bon, voilà. Mais en sachant qu'à un moment, ça doit redescendre. Air Liquide, plus forte hausse aujourd'hui sur le CAC, grâce à l'IA là aussi. Eh oui, Air Liquide, parce qu'Air Liquide a décidé d'accompagner davantage SK Hynix dans la production de ses puces mémoire, un investissement de 200 millions de dollars dans SK Hynix.
C'est incroyable. C'est toutes les thématiques autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Hein. L'Oréal, c'était il y a un mois, ils avaient fait un partenariat aussi là-dessus. Là, c'est Air Liquide. C'est vrai que les directeurs de communication et les directeurs marketing ont bien compris le système quand même. C'est vrai que sortir un communiqué qui est lié à l'intelligence artificielle, on sait que forcément d'un point de vue boursier, ça va plutôt réagir à la hausse. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Air Liquide. Oui. Maintenant, est-ce que Air Liquide va avoir une croissance exponentielle par rapport à l'intelligence artificielle? J'en suis pas sûr.
On va quitter cette thématique de l'IA quand même un instant, Thibault, avec ouais, une autre valeur, mais alors qui progresse beaucoup plus lentement, mais constamment, continuellement. Elle est espagnole, c'est la première capi espagnole, incroyable. On est dans le secteur de l'habillement, un géant européen de l'habillement, la distribution qui tient, c'est Inditex, la maison mère de Zara. Ils ont publié leur résultats, leur chiffre de vente de la période estivale, là, sont prometteurs, au-dessus des attentes. Le titre Inditex, comme d'habitude, réagit positivement à la publication, plus 3,5% aujourd'hui Inditex.
C'est incroyable ce qu'ils font Inditex, c'est-à-dire trimestre après trimestre, ils arrivent à battre le consensus, à repartir sur de la croissance. La croissance attendue à 8, ils font un petit peu plus. Les deux premiers mois du trimestre, donc avril, mai, juin, donc jusqu'à début juin, ils sortent un peu plus de 10% de croissance encore sur les deux derniers mois de l'année, enfin sur les deux derniers mois, deux premiers mois du trimestre. C'est assez impressionnant et c'est vrai qu'on sait pas où ça peut s'arrêter. Donc forcément, on se laisse porter. Momentum toujours très très favorable. L'ensemble du secteur est sinistré ou presque, et pourtant ils arrivent à sortir des chiffres incroyables, avec des marges qui s'améliorent systématiquement. Pour l'instant, on privilégie le leader et on fait bien.
Thibaut François, il est avec nous en fil rouge tout au long de l'après-midi. On vous retrouvera à la clôture des marchés, Thibaut. Fastéa Capital, le CAC 40 perd 0,6%. Bastien Jallet nous rejoint à FLIG. Bonjour Bastien. Ces valeurs ajoutées, vous venez apporter une idée de valeur en plus à nos auditeurs. Bastien, êtes-vous prêt? Vous n'avez, je vous préviens, que 2 minutes 30 pour les convaincre, nos auditeurs. Êtes-vous prêt?
Allons-y.
On est positif, vous êtes positif avec vos experts sur une entreprise de services numériques français, le titre OB. Pourquoi OB?
Tout à fait. OB, c'est donc une société française, principalement présente dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'énergie et des transports. Et pour vous donner un grand chiffre, c'est un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2025, qui a été un niveau record pour la société. Alors, on est positif parce que la société elle dispose de trois points forts principaux. Le premier, et c'est essentiel, des fondamentaux solides. Ils évoluent sur le marché des services numériques, un secteur qui reste indispensable pour les grandes entreprises, malgré les ralentissements économiques, malgré ce qu'on peut dire de la disruption IA, parce qu'il faut bien quelqu'un pour implémenter tous ces nouveaux projets. Le groupe, il bénéficie d'un positionnement historique fort auprès des grands comptes, notamment financiers avec des relations long terme. Et financièrement, c'est une superbe boîte, hein. C'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, une rentabilité parmi les meilleures, avec 9% de marge opérationnelle et un bilan particulièrement sain, ce qui est important dans un environnement incertain comme aujourd'hui. Le deuxième point, c'est une stratégie de consolidation raisonnée. Le marché européen des ESN, on le sait, reste très fragmenté, ce qui ouvre la voie à des opérations de croissance externe. Et eux, on en fait une très récemment, en 2025, qui s'appelle Solutech, ce qui a contribué significativement à la croissance du groupe en 2025. Et ça leur a permis d'adresser des nouveaux marchés comme l'énergie. Cette stratégie, elle permet au groupe d'atteindre une taille critique plus importante, tout en renforçant son offre technologique. Et enfin, dernier point, et c'est très important aussi pour nous, un management reconnu et discipliné. C'est une société qui a été fondée il y a plus de 30 ans, avec toujours la même équipe aux manettes, et une équipe qui a su montrer ses capacités à passer les cycles, à faire de la croissance, à réaliser des acquisitions qui font du sens. Et en plus, cette équipe est présente au capital, ce qui permet d'aligner les intérêts entre managers et actionnaires.
Alors il y a l'IA, est-ce que l'IA va disrupter les acteurs comme OB? C'est une grande question, mais peut-être qu'à plus court terme encore, le principal risque pour OB, c'est d'être aussi exposé à l'Europe, au cycle économique européen.
Oui, exactement. Quand on voit les PMI qui sont en zone de contraction, on peut être assez inquiet parce que ça peut être des missions qui sont facilement coupables par les sociétés, tous leurs consultants. Et Aubaine n'est pas immunisé face au cycle, mais il profite quand même d'un positionnement parmi les prestataires les plus importants des grands comptes qui permet de protéger en partie son business durant les fluctuations d'un cycle. Vous l'avez compris, Guillaume, selon nous, c'est une valeur de qualité dans l'univers des ESN européennes, avec un historique d'exécution particulièrement solide. Et en plus, le groupe combine trois éléments rarement réunis dans le secteur. Croissance, discipline financière et rentabilité élevée.
Bastien Jallet et Faligé qui bat le chrono. Merci beaucoup, Bastien, en 2 minutes 26 secondes. Donc, c'est votre nouveau benchmark, hein, Bastien. Vous avez, voilà, à chaque fois, on vous mettra un chrono de 2 minutes 26 désormais.
Allez.
Voilà. Soyez pas trop fort, du coup, ça raccourcit à chaque fois le compte à rebours. Bastien et Faligé et ce titre OB, donc, que vous recommandez, en tout cas, sur lequel, non, vous recommandez pas, mais en tout cas, vous êtes positif et vous détenez en portefeuille cette valeur avec un argumentaire à retrouver en replay. Le CAC 40 perd 0,7%. Je dis vous recommandez pas parce qu'il y a des impératifs réglementaires. Voilà, on n'est pas dans le conseil, mais on est quand même dans l'analyse et l'éclaircissement sur les différentes valeurs. Wall Street aussi est en baisse. Alors là, c'est un petit événement, c'est pas une grosse baisse, on perd que 0,4% sur le S&P, mais enfin c'est une baisse qui est quand même relativement ancrée, à moins 0,4 après 9 hausses d'affilée pour l'indice phare américain.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et pendant ce temps, l'OCDE abaisse sa prévision de croissance mondiale avec l'impact de la guerre en Iran. François Cabot nous rejoint, économiste senior groupe AXA. Bonjour François. Est-ce qu'à vos yeux, l'OCDE abaisse suffisamment sa prévision de croissance mondiale?
Oui, je crois effectivement dans la scénario de base, on est tout à fait aligné. On a une croissance mondiale de notre côté à 2,9% cette année, donc également en décélération importante hein, par rapport à l'année dernière, 3,4%. Donc c'est notable, hein, certainement. Et là-dessus, peut-être là, nous, on se différencie côté AXA, c'est effectivement avec une Europe hein, qui est plus faible que ce que prévoit l'OCDE, avec une croissance à 0,6-1 en 26-27, alors qu'eux ont 0,8-1-2. C'est là où on était il y a 6 semaines. Et en particulier sur l'Allemagne, je tiens à attirer cette attention-là, parce que nous, on est à peine 0,3 de croissance cette année avec effectivement une accélération en 2027 à 0,9 alors qu'eux ont encore 0,7 cette année avec une accélération aussi à 1. Donc voilà, effectivement globalement aligné avec peut-être un biais à la baisse côté Europe qui est effectivement au cœur de la décélération de l'économie mondiale prévue pour cette année.
Alors, on a reçu aussi les chiffres, les indicateurs directeurs d'achat ISM service du mois précédent. Qu'est-ce que ça donne?
Alors effectivement, hein, sur l'ISM, c'est plutôt la situation se tient plutôt bien avec une petite amélioration de quasiment un point de l'indice production hein, des secteurs des services. Par contre, peut-être à noter de manière plus proéminente le rebond des côtés des commandes sur le secteur des services là qui a bondi de plusieurs points. Et ça, c'est pour le mois de mai. Et puis dans le même temps, on a eu également pour le mois d'avril les commandes de biens durables aux États-Unis également qui ont également très bien performé. Donc là-dessus, ça renforce quelque part le message qu'on a eu de l'enquête ADP hein, un peu plus tôt qui suggérait effectivement que l'embellie de l'emploi, en tout cas la stabilisation du marché de l'emploi américain avait été continuée et qui donnerait de lieu effectivement à des NFP voilà, sans doute en ligne avec ce qu'on a eu ces derniers mois et donc du coup un marché de l'emploi qui se stabilise aux États-Unis.
Merci beaucoup François Cabot, économiste senior pour Groupe AXA, donc cet indice ISM qui est relativement solide, effectivement au-dessus des attentes à 54,5, on l'attendait à 53,8, on a aussi l'enquête ADP hein, qui montre que le marché de l'emploi américain reste très résilient, ça va pas pousser la Fed à baisser ses taux rapidement, c'est pas une bonne nouvelle pour les perspectives de baisse de taux, c'est peut-être d'ailleurs une explication à la baisse de Wall Street aujourd'hui, moins 0,4 sur le S&P 500.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
La tech américaine brille, certes, mais la tech chinoise veille. Il revient tout juste de Chine et va nous dire où elle en est, la Chine, sur la tech. Leslie Griff de Malval, gérant Crédit Mutuel Asset Management, est avec nous. Bonjour Leslie, bienvenue.
Bonjour Guillaume,
vous avez
Antoine.
Rencontré là, ces derniers jours, ces dernières semaines, beaucoup d'entreprises chinoises sur place. Vous revenez tout juste de Chine et des entreprises clés du secteur de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA en Chine est aussi un sujet central, aussi massif qu'aux États-Unis en ce moment?
Clairement, la Chine, vraiment, l'IA est en train d'exploser. Il y a beaucoup de cas d'utilisation. Vous avez des champions locaux, puisque le marché est fermé aux sociétés américaines et dans une moindre mesure aux sociétés américaines. Donc, c'est vraiment en train de partir. Tout le monde vous parle de ça. Vous avez des applications réelles, notamment les leaders, c'est Tencent, Alibaba surtout, et puis ByteDance, la société derrière TikTok, qui se livre à une concurrence acharnée et qui, comme les Américains, dépensent beaucoup, même dans une moindre mesure.
Oui, alors on va rentrer dans le détail, parce que là, ce qui cartonne, ce qui explose à la hausse, c'est le secteur, les segments des semi-conducteurs, des puces aussi aux États-Unis. Bien sûr, il y a aussi Nvidia. C'est intéressant, qu'en disent les Chinois, là, et notamment sur Nvidia, dans un contexte de restriction que la visite de Donald Trump, il y a quelques jours, n'a pas réussi à véritablement solutionner. Que disent les Chinois de ces restrictions américaines sur les puces Nvidia en Chine?
Alors, quand ils veulent avoir des puces Nvidia, y compris les plus récentes, ils y arrivent par un moyen ou un autre. Soit il y a des importations un peu par d'autres pays, soit ils font entraîner leurs modèles sur des clouds dans d'autres pays. Et puis, il y a des discussions pour avoir les fameuses puces H20 d'Nvidia qui sont pour l'instant interdites d'utilisation par le gouvernement chinois en Chine. Mais si vous avez un data center à Singapour ou en Malaisie, vous pouvez les utiliser. Après, il y a toute une partie qui représente 10 à 20% maintenant des puces IA qui sont chinoises, qui sont domestiques, qui sont faites par Huawei, par Alibaba avec Tied, par Baidu notamment, ou Biren ou Morethread. Donc il y a des alternatives, mais le goulot d'étranglement, c'est vraiment la production. Les Chinois aussi sont limités en capacité de production.
Alors l'attention des marchés s'est beaucoup focalisée sur les infrastructures informatiques et les modèles d'IA. Les prochaines étapes, c'est quoi exactement?
Alors effectivement, il y a l'IA physique, ce qui est la prochaine étape. Celle qu'on voit le plus en Chine, clairement, ce sont les robotaxis. Vous avez des flottes de robotaxis, que ce soit celle de Baidu avec Apollo Go, hein, c'est quand même 350 000 courses payantes par semaine. Alors c'est un peu en dessous de Google Waymo qui a 500 000, mais ils ne sont pas les seuls, il y a PonyAI, il y en a d'autres. Donc ça, c'est une vraie matérialisation. Et puis, il y a une autre manifestation de l'IA physique qui est en train d'arriver, c'est les robots humanoïdes. Et là-dessus, on commence à être à un tournant, parce qu'on est en train de passer du concept au déploiement dans les usines.
Alors voilà, parce que pendant que les Américains ont manifestement une petite longueur d'avance encore sur l'IA, sur les robots humanoïdes, on est moins sûr. C'est plutôt les Chinois qui ont de l'avance. Ils en sont où, là, opérationnellement, sur ces robots?
Alors, l'année dernière, en Chine, en gros, ils ont dû produire à peu près 13 000 robots humanoïdes. Là, on parle d'un doublement, voire plus, cette année. On est, encore une fois, en train de passer du stade de test dans les usines au déploiement chez les constructeurs, notamment auto, BYD, BMW ou les fabricants de smartphones comme Foxconn. Les robots humanoïdes remplacent dans une certaine mesure les humains sur les tâches répétitives, transporter une boîte de A à un point A à un point B. Alors, faut savoir que c'est pas encore parfait. Ils sont 50% moins rapides que les humains, mais ils sont infatigables et le coût aussi est en train de baisser fortement.
Ouais, et vous y étiez, hein. Vous en avez vu des robots humanoïdes, là?
Oui, on a vu, qui font des tâches assez simples, parce que
il faut bien faire connaissance avec eux, alors.
Voilà.
Ça s'est bien passé.
Très bien, très sympathique. Pas très bavard, mais oui. Il faut bien voir pour l'instant, c'est comme des enfants, faut tout leur apprendre. Il faut à la fois qu'il y ait des êtres humains qui soient filmés en train de faire certaines actions, que ce soit enregistré. Après, une fois que vous avez ces données, c'est envoyé dans des modèles de langage des LLM pour que le robot prenne ça en compte. Et après, il y a toute une phase d'apprentissage. Donc, c'est très lent. Ils sont pour l'instant faits pour une seule tâche, mais ils ont un coût qui est en train de baisser drastiquement. On parlait l'année dernière d'un prix moyen de 70 000 dollars. Cette année, on va être quelque part à moitié moins. Les coûts baissent aussi, donc on va avoir une rentabilité et des déploiements qui sont en train de se faire. En Chine, un robot, le retour sur investissement, c'est au bout de 2 ans. Imaginez dans les pays où le coût du travail est plus cher, ça peut aller beaucoup plus vite.
On est dans BFM Bourse, émission d'investissement, d'investisseurs. Quels sont les pays et surtout les entreprises qui tirent leur épingle du jeu dans cette course aux robots humanoïdes?
Alors, aux États-Unis, c'est essentiellement Tesla avec son robot Optimus qui devrait sortir cet été. On n'a pas beaucoup d'infos et qui sera là aussi déployé d'abord dans les usines de Tesla. Vous avez Figure AI aussi. La Chine est très forte. Hein. Il y a Ubitree, il y a Dobot, notamment qui sont à la pointe. Vous avez les Coréens aussi qui ont racheté Boston Dynamics, une entreprise qui était détenue par Google. Là aussi, les Coréens vous disent nous, on va les déployer, nos robots humanoïdes, dans les usines de voitures. Ils sont meilleurs parce qu'ils sont plus rapides. Ils portent des charges de 20 kilos contre les robots chinois de 5 kilos. Voilà. Malheureusement, en Europe, en robots humanoïdes, parce qu'il y a une entreprise allemande qui s'appelle Helsing qui développe des robots quadrupèdes, on est un peu à la traîne. Donc c'est vraiment ceux qui mènent la danse, c'est les Chinois, les Américains et un peu les Coréens.
Et on verra quand ces robots humanoïdes s'occuper de nos tâches ménagères à la maison, très concrètement.
Alors, malheureusement, pas tout de suite. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison d'apprentissage.
Oui.
Comme on l'a vu, c'est déjà très lent d'apprendre un robot à faire une tâche assez simple pour transporter une boîte d'un point A à un point B. Alors, imaginez un robot ménager qui doit à la fois vider le lave-vaisselle, faire le repassage, sortir le chien. Ça va demander un certain temps. Il va falloir que les prix baissent aussi fortement. Donc, en gros, les robots industriels vont permettre d'accélérer la pénétration des robots humanoïdes chez nous. Et puis, il faudra aussi l'acceptation, notre acceptation de se retrouver avec quelqu'un, un robot qui peut déambuler la nuit pour faire le ménage. Mais voilà, c'est une question de coût. Donc, à mon avis, pas avant ici 4 à 5 ans. Et l'essentiel de la chaîne de robotique se focalise sur les robots industriels et sur les robots commerciaux.
Oui, oui. Et Nvidia est dans cette chaîne-là. Hein.
Tout à fait. Voilà. Ce qui est intéressant de voir dans la chaîne de valeur, c'est que pour l'instant, la plupart des robots, alors Jensen Huang, le PDG d'Nvidia, met ça énormément en avant, mais ce sont des puces Nvidia qui, elles, ne connaissent pas de restrictions comme les puces les plus avancées d'IA. Mais vous avez aussi des acteurs chinois qui sont en train d'arriver. Vous avez Horizon Robotics qui fournit aussi des puces à la fois pour les robots taxis, mais aussi pour les robots traditionnels.
Oui, et vous verriez bien l'introduction en bourse, vous la sentez venir, hein, celle de Boston Dynamics.
Alors, Hyundai commence à en parler, vous voyez oui. Le cours de Hyundai, bon, c'est que le marché auto est un petit peu difficile et le cours a plutôt été, a fait une bonne performance. Il y a une grosse partie, et quand vous les rencontrez, les questions des investisseurs se concentrent beaucoup sur Boston Dynamics. Ça arrivera sans doute à un moment ou à un autre. Bon, ils n'ont pas donné de calendrier. Et puis, le calendrier des introductions en bourse est déjà bien chargé avec des poids lourds.
Oui, mais manifestement, ça ne fait pas peur. Hein. Ça n'empêche pas, par exemple, Alphabet d'annoncer lever 80 milliards en créant de nouvelles actions, alors qu'il va y avoir déjà énormément d'appels à capitaux avec toutes ces IPO. Bah, ils vont lever comme ça 80 milliards sur le marché actions. Alors, pourquoi pas une autre intro, celle de Boston Dynamics ou d'autres. On n'est peut-être pas au bout. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.
Merci.
Leslie Griffe de Malval, aujourd'hui, gérant spécialiste de tous ces enjeux tech. Il revient tout juste de Chine, il a croisé des robots, mais vous disiez ils sont pas très bavards.
Hein. Non.
Là-dessus, il y a du... ouais. Bon, après, il suffit de mettre Alexa à l'intérieur et puis le robot, il parle. Hein. Ouais. C'est pas très compliqué, en fait. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Crédit Mutuel Asset Management. Le CAC 40 recule de 0,5%. Dans un instant, c'est notre graphique parlant. Il sera avec nous, l'analyse technique en chair et en os. Romain Daubry pour Bourse Direct. En famille, c'est la famille qui arrive. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est la famille BFM Bourse, le seul endroit au monde où vous choisissez souverainement votre famille. Il nous rejoint, Julien Marion, BFMBourse.com. Bonjour Julien.
Et bonjour Guillaume et bonjour Antoine, ravi de vous retrouver tous les deux.
Mais pareil, welcome. On est tous en chemise sans veste là, tiens, aujourd'hui, c'est vrai.
Et j'ai oublié ma veste.
Mais non, mais on l'assume, parce que sur les marchés, on a les mains dans le cambouis. Hein. On y va, c'est de l'opérationnel, là, clairement. Les marchés qui sont aujourd'hui en repli, même Wall Street, tiens, ça change un petit peu, Julien.
Oui, bah écoutez, on a l'impression, je sais plus qu'il y avait cette expression de dire que sur le Moyen-Orient, on avance de 3 pas, puis on recule de 2 pas. Là, actuellement, vous avez quand même des frappes entre l'Iran et les États-Unis, enfin, plutôt en Iran, qui ont lieu. Et on sait pas trop où on en est, on a l'impression que le cessez-le-feu est quand même bien entamé. Il y a un bon appétit pour le risque qui se tasse. Et voilà, c'est un peu normal qu'on soit sur des séances comme ça où on ne sache pas trop où on va et qu'on ait un
redéroulé. C'est vrai. Il y a une forme de respiration. Et puis les indicateurs économiques américains qui sont sacrément costauds quand même. L'indice ISM des services, il a été publié il y a quelques minutes, il est au-dessus de 54. Il est en expansion, mais alors au-delà des attentes, il est meilleur qu'attendu, l'ISM service, et l'enquête ADP sur l'emploi, plus forte qu'attendu aussi, 122 000 créations de postes. Malgré les doutes qu'on a sur l'ampleur du ralentissement, ça reste un très soft landing pour l'instant. Et du coup, le marché se dit sans doute, c'est pas avec des stats comme ça que la Fed va baisser ses taux, elle va sans doute les maintenir, les taux à la...
On a un 10 ans américain qui se rapproche à nouveau des 4,5%, 4,48. Cela dit, ça se tend un petit peu partout. 3,64 pour la dette française et 3,02 pour la dette allemande, hein, qui repasse donc le cap de 3%. Le pétrole, hein, évidemment, qui réagit, qui gagne quelques dollars. C'est pas la flambée non plus, mais 97,30 pour le Brent de mer du Nord, 95 pour le brut léger américain. On sent les marchés vraiment sur la défensive et même sur la qualité des titres qui sont choisis en tête du CAC 40, on sent qu'on mise là à court terme sur vraiment des valeurs sûres, du solide, du tranquille, on va dire.
Oui, effectivement. Avec, alors Air Liquide, c'est vrai qu'en plus Air Liquide annonce un investissement auprès du coréen SK Hynix pour l'accompagner dans la fabrication de puces mémoire pour l'IA, les puces mémoire dédiées à l'IA. Ben, résultat, Air Liquide est considéré comme une valeur qui bénéficiera aussi de l'IA. Le titre gagne 1,8%. On a aussi Total Energy avec le pétrole en hausse. C'est vrai, c'est l'enlisement là-bas. Toujours pas d'accord entre Américains et Iraniens. Et comme on dit dans BFM Bourse depuis maintenant plusieurs semaines, pour l'instant, tous les chemins mènent à l'impasse sur ce dossier iranien. Une valeur qui s'en sort bien aujourd'hui, Julien, plus que bien. On ne l'avait pas vu venir celle-là, c'est encore une fois l'IA, l'IA. Valeo. Valeo gagne 18%, ce serait un autre gagnant de l'IA, Valeo.
Oui, l'exubérance irrationnelle des marchés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une note de JP Morgan. L'analyste de JP Morgan, Rosé Assoumendi, en fait, il fait un compte-rendu d'une conférence qui s'est tenue, il me semble, lundi. Oui. Lors de cette conférence, en fait, Valeo a un peu expliqué en fait ce qu'ils comptaient faire un peu dans leurs activités annexes à l'automobile. Ils ont vaguement évoqué la défense, mais ils ont surtout évoqué en fait ce qui est la conception, que l'étude de systèmes de refroidissement pour les data, notamment pour les data centers et pour les systèmes de batterie. Mm-hmm. Et vous dites data center, vous dites IA. Parce que, et donc, on ne sait pas encore exactement combien de chiffres d'affaires ils feront là-dessus. Alors, l'agence AGFI Dow Jones, mes anciens camarades que je salue, estime qu'ils ont évalué le marché à 50 milliards de dollars d'ici 2035. Mais c'est ça qui fait monter le titre. En fait, c'est juste des petites indications de on fait quelque chose. Moi, un analyste avec lequel j'ai échangé m'a dit ils sont sur le buzzword et ça suffit. Et vous avez plus 17% aussi parce que c'est l'occasion, a priori, c'est aussi ce qu'on dit l'analyste que j'ai interrogé. D'avoir un short squeeze, c'est-à-dire des investisseurs qui parient à la baisse et qui débouclent leur position. Donc, vous avez une combinaison de frénésie de marché autour de cette espèce, je vous dis, d'exubérance irrationnelle autour de l'IA et un short squeeze et vous avez un plus 17%. Ouais.
Mais industriellement, c'est intéressant. Le fait que les solutions de refroidissement de batterie de Valeo, batterie de voiture, puissent servir au data center et donc pour l'IA, ça arrime Valeo à l'IA également. Et donc, plus 18, il y a une forme d'explication. Alors, c'est peut-être de l'exubérance, mais d'exagération de marché, mais il y a du hard là derrière. Il y a quand même du fondamental.
Écoutez, juste avant de venir, j'ai une note de Jefferies qui rebondissait un peu là-dessus, qui était publiée vers 15h, je crois, et qui vous disait que c'est quand même une avenue de croissance qui est amenée à se développer. Et oui, ils vous disent, du coup, forcément, les multiples vont s'améliorer. Et maintenant, une fois que ça s'est dit, the jury is out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la question reste à savoir si, oui, on peut, évidemment qu'ils peuvent probablement faire des choses là-dessus, c'est une opportunité de croissance de combien ? On rajoute quoi, 200 millions d'euros ou 2 milliards d'euros ? Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas cette conférence, je m'en excuse. C'est Valeo qui nous démontrera ça et qui l'expliquera peut-être mieux dans les prochaines semaines.
Un équipementier auto bénéficiaire de l'IA au point de gagner 18% aujourd'hui à la Bourse de Paris, Antoine.
Non, mais regardez, on a Dell qui améliore ses perspectives dans l'IA et le titre prend 30%. HP, même chose. On a Jensen Huang qui dit « Tiens, je verrais bien Marvel, prochaine société, atteindre les 1000 milliards de dollars. » On a l'impression, de comme dans le film Hot Shots, le faux Rambo qui tire, à la fin la mitrailleuse, elle ne fonctionne plus, donc il prend les balles, il les jette sur les gens. Enfin,
non, Hot Shot 2. On est dans Hot Shot 2, ça.
Oui, voilà. On est dans une exubérance irrationnelle qui fait un petit peu peur de temps en temps. Et moi, voir Valeo grimper de 17% sous prétexte que... Bon, les lendemains risquent d'être difficiles le jour où il y a la moindre faille dans le système, et c'est quand même compliqué.
Romain Dobry nous rejoint, Bourse Direct. Bonjour Romain. En tout cas, le CAC, les indices reculent et reprennent un peu de consolidation. Là, une petite respiration aujourd'hui, moins 0,5 sur le CAC. Wall Street aussi recule un petit peu. Comment vous sentez les forces en présence, vous Romain ?
En Europe, c'est toujours la même chose. Pour être factuel, l'Eurostox a progressé de 1,21% hier. Le nombre de contrats futurs a diminué de 3,29%. Encore une fois, on a un rebond qui se forme avec une absence d'intérêt, même une baisse d'intérêt. Donc, les opérateurs qui sont en retrait sur les indices d'une façon générale, et ça se traduit par des yo-yos qu'on retrouve régulièrement. Pour ce qui est du comportement sur les indices américains, j'aurais pas fait mieux que la synthèse que vous venez de faire à l'instant. On commence à arriver à effectivement des niveaux qui sont assez irrationnels en termes de comportement. La moindre annonce, et ça rappelle une période qui était de 1999, où on avait ce genre de comportement, il suffisait de prononcer ce mot-là pour avoir des mouvements de décalage extrêmement violents. Ceci dit, c'était en 99, l'excès s'est corrigé quelques mois plus tard. Donc, pour l'instant, bien ça continue, mais effectivement, on voit un peu de fébrilité sur les indices américains et beaucoup de mouvements assez brutaux, mais uniquement dans le sens de la hausse pour l'instant.
Quels sont les prochains seuils techniques à suivre ?
À Paris, on est toujours dans notre range 8082 et 8259. Encore une fois, un contre-pied, pareil, manque d'intérêt, manque de soutien. On est vraiment en situation d'attente. On est plutôt proche de réactiver le mouvement haussier au-delà de 8259, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher 8357, 8460. On voit qu'on est vraiment en situation de stand-by. 8082, c'est le premier niveau d'alerte un petit peu gênant avant de risquer d'accélérer à la baisse et d'aller chercher à nouveau 7856 points. C'est vraiment très lié à des phénomènes d'annonce et pour l'instant, on voit que c'est en dehors des indices que ça se joue et surtout sur quelques titres pour l'instant qu'a lieu le momentum. Si on regarde le S&P, le premier niveau d'alerte, c'est 7563. La prochaine cible haussière majeure, c'est 7685 points. On est un petit peu topiche depuis maintenant la fin de la semaine dernière, donc ça fait pas très longtemps, mais on voit qu'on n'arrive pas à retrait d'intérêt, même si on n'a pas de signe d'invalidation. On peut juste rappeler quand même que les ratios put call sont hyper, hyper optimistes maintenant, moins de 0,6 sur les grands indices. Ça veut dire que, encore une fois, c'est pas un signal de retournement, mais que si les opérateurs sont surpris ou qu'une mauvaise nouvelle advenait, qu'elle puisse surprendre les opérateurs, les mouvements seraient plus violents. Donc, un peu de prudence, à mon avis, dans ces mouvements et dans ce comportement. On a quand même plus de 9 semaines de hausse sur les indices américains sans retracement.
Alors, il y a le train qui passe avec tous ses wagons. On a l'IA, on a les semi-conducteurs, puis il y a les wagons qu'on attend encore. Il y a le photonique. Et puis, il y a le quantique. Et le quantique, quand on parle des marchés américains, il y a un nom, c'est Rigetti.
Ouais, Rigetti, qui sort d'une quasi-faillite, il faut le dire, il y a 18 mois, mais qui s'est bien, bien repris depuis. Le titre valait environ 14 euros au mois de mars. Il cote maintenant 25 euros. Ceci dit, il a formé une accélération haussière intéressante la semaine dernière et il s'est calé dans une petite structure qu'on appelle un fanion. C'est une structure normalement de continuation haussière. Il faudrait pour ça déborder le niveau de 27,30, confirmer le débordement de ce niveau en clôture. Et dans ce cas-là, on aura un mouvement de hausse complémentaire qui pourrait renvoyer le titre à 34 et pourquoi pas 37,60. Si on passait sous 24, le scénario serait invalidé. Donc 24 alertes. Débordement et réactivation 27,30 et cible 34 et puis 37 pour Rigetti, l'un des acteurs de la physique quantique, enfin des ordinateurs quantiques.
Merci Romain. On vous retrouvera à la clôture des marchés à 17h35 au CAC 40 en baisse de 0,6%, Wall Street en légère respiration aussi à la baisse, moins 0,3 le S&P. Et cette question, parce que vous faites tous, chacun d'entre vous, partie de cette famille sur X et LinkedIn chaque jour, on vous challenge et on vous pose cette question, la question du jour. 1000 milliards de dollars de capitalisation. D'après Jensen Huang, c'est Marvel, l'une des pépites américaines de la tech qui franchira à son tour prochainement les 1000 milliards de dollars de capitalisation. C'est ce qu'il a dit hier, ça a propulsé Marvel à la hausse. Et pour vous, quelle sera la prochaine à franchir les 1000 milliards parmi ces valeurs? Il y a AMD, Walmart, pas très loin des 1000 milliards, JP Morgan ou encore ASML. Laquelle de ces quatre-là sera la prochaine à aller franchir les 1000 milliards de dollars? Julien.
La vraie bonne réponse, c'est Walmart. Ils ont déjà franchi. Et très sincèrement, quand vous regardez un petit peu comme ils développent les ventes en ligne au point d'être devenu aujourd'hui le vrai grand rival d'Amazon, il n'y a pas de raison qu'en fait cette société en fait ne repart pas de l'avant. Il y a un petit trou d'air actuellement sur le titre et qui a très bien progressé. Et les résultats sont souvent très performants chez Walmart.
Oui.
C'est l'entreprise a vraiment très bien géré et peut gérer aussi d'une façon aussi agile et aussi sérieuse un groupe de cette envergure-là. Parce qu'on rappelle Walmart. Jusqu'à il y a peu, c'était le groupe coté au monde qui a dégagé le plus de chiffre d'affaires. Amazon est passé légèrement devant eux. Donc c'est ça la bonne réponse maintenant. C'est la réponse la plus facile, elle était un peu trop facile, si vous, à mon humble avis. Je pense qu'AMD, ce serait pas déconnant que parmi les quatre, ce soit celui qui se rapproche le plus du 1000 milliards de dollars. On est sur le secteur qu'il faut, les semi-conducteurs. Et au passage, quand Jensen Huang parle de Marvel pour dire qu'ils vont atteindre les 1000 milliards de dollars, Nvidia a 2 milliards de dollars investis dans Marvel, ils sont à 200 milliards de capi, bon, c'est du wishful thinking.
Un peu jugé parti de Jensen Huang.
Voilà, mais il fait un peu exprès, je pense qu'il est exubérant.
Donc pour vous, qui a le plus de chances de franchir à la hausse les 1000 milliards, ils l'ont déjà fait il y a quelques mois d'ailleurs, Walmart, c'est votre choix. Antoine.
AMD, c'est vrai que c'est la réponse qui tombe sous le sens, Walmart c'est déjà fait. ASML, on avait dit à quoi ça sert d'avoir la même taille que les hyperscalers américains. ASML, c'est quand même 650 milliards. Hein. On n'en est plus si loin. Mais pour moi, la bonne réponse, c'est JP Morgan.
Je suis d'accord avec vous.
Ils sont à 800 milliards. Je ne vois pas de véritable paille dans le système bancaire américain de nature à ce que ça redescende. C'est quand même une valeur qui n'a jamais déçu et qui prend à chaque fois beaucoup, beaucoup de valeur. Ouais, je dirais bien JP Morgan.
Il ne faut pas oublier la dérégulation financière, à nouveau à l'œuvre aux États-Unis, une croissance toujours forte, peut-être des fusions-acquisitions amenées encore à se développer, les introductions en bourse aussi dont peuvent profiter des banques, des établissements comme JP Morgan, et vous votez donc, vous, JP Morgan. Qui sera la prochaine à franchir les 1000 milliards? C'est notre question, on va regarder vos réponses à vous tous. Vous votez ASML.
l'européen ASML. Franchement, on voulait mettre une valeur européenne parce que les trois autres sont américaines. On s'est dit, on va quand même mettre une européenne comme ça pour faire joli, puis pour au moins faire semblant d'y croire.
Eh ben, je félicite les auditeurs parce qu'ils ont de la clairvoyance.
Non, mais c'est loin d'être idiot hein. Quand vous regardez ASML.
Non, c'est pas idiot.
Là, on était à l'été 2025 et là, on est aujourd'hui. Je serais sur un an. Ça prend combien, Antoine, ASML?
Bonne question.
Parce que sincèrement, leur rallye boursier d'ASML, il est assez incroyable depuis la moitié de l'année dernière.
47% d'entre vous, vous y croyez à 1000 milliards de dollars le titre ASML, qui est assez en dessous hein, quand même aujourd'hui. Vous êtes que 34% à voter AMD, 11% Walmart et 8% JP Morgan sur un an.
Sur combien de temps ta question ?
Un an.
Sur un an, on gagne, on a doublé de cours, hein, 123%.
Il y a 40%. Là, il y a quoi à chercher Il y a 50%, 60% à chercher pour taper les 1000 milliards de dollars.
Sur un marché de wording comme ça et de storytelling autour de l'IA, il y a peut-être moyen.
Oui, sachant que ce qu'ils font, c'est vraiment une technologie avancée. Hein,
tout à fait.
La photolithographie.
Et puis, dont tout le monde a besoin. Hein. Ça, faut pas l'oublier.
Ouais, le jeu reste ouvert. On va espérer surtout pour ASML et essayer de vous faire vivre au mieux chaque jour, jour après jour, séance après séance, l'épopée tech qui chaque jour nous étonne. C'est vrai, le CAC 40 aujourd'hui perd 0,6%, mais parmi les meilleurs perfs, il y a Valeo, porté par l'idée que Valeo deviendrait une valeur IA. On en reparlera bien sûr aussi tout à l'heure. Mais n'oublions pas la bonne vieille économie et le textile, l'habillement. Le géant espagnol Inditex, c'est la maison mère de Zara, a une nouvelle fois publié positivement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il publie, le marché achète, le marché adore, le marché est impressionné, ébloui. Non, mais c'est vrai aussi par Zara, il n'y a pas que la tech. Inditex en bourse, c'est un vrai carton. Et là, cet après-midi, ce titre, après la publication, gagne à nouveau 3,5%, je viens.
Oui, alors on a des ventes qui progressent de 6%, mais on va arrondir en données normales et de 9% hors change, c'est un peu au-dessus des attentes. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce qu'on appelle la marge brute. Hein, donc la marge la plus élevée dans le compte de résultats, c'est la plus pure, celle qui est entre guillemets composée de moins d'éléments, elle progresse légèrement et elle dépasse elle aussi les attentes. Ce qui est quand même assez remarquable. Et par ailleurs, ce qu'ils vous disent aussi, c'est que sur le premier mois de leur deuxième trimestre, hein, ils sont légèrement décalés à Zara. Le premier trimestre, ça va de février à fin avril. Donc là, sur le mois de mai, en fait, les ventes ont quand même progressé de 11%. Hein.
Ouais.
Même s'il y a des effets calendaires positifs, c'est-à-dire qu'en gros, les vacances de Pâques étaient plus tôt, donc vous allez davantage chez Zara pour acheter des fringues. Pour faire court, c'est aussi une indication qui est jugée positive par les analystes puisque c'est largement au-dessus des attentes.
Et Inditex fait progresser ses marges alors que le conflit au Moyen-Orient, au contraire, crée une pression sur les coûts.
C'est peut-être ça le point le plus intéressant de la publication. Ça montre Inditex est une valeur appréciée pour plusieurs raisons. Déjà, quand vous regardez un petit peu la croissance du groupe sur le trimestre écoulé, en sachant que vous avez le conflit au Moyen-Orient, on voit bien qu'ils gagnent des parts de marché. Et surtout, on voit, avec leur marge, qu'ils arrivent en fait à créer une structure logistique, une chaîne d'approvisionnement et une agilité qui leur permettent en fait de maximiser les coûts sans pour autant créer des ruptures d'approvisionnement. C'est ça en fait qui est mis en valeur par les analystes, c'est l'agilité du groupe. Et une dernière chose sur Inditex, on parle du conflit au Moyen-Orient. On voit assez bien les problèmes qui se posent pour des groupes d'habillement comme Zara, comme Inditex ou NS & Moritz, H&M. Ben, hausse du fret, hausse des matières premières, et aussi une confiance du consommateur dégradée. Et là-dessus, Bank of America dit un truc intéressant, je trouve. Ils disent que Inditex, Zara, pourrait profiter de ce qu'on appelle le downtrading chez les consommateurs. Alors, le downtrading, vous allez me dire, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand vous achetez pas des vêtements très très chers de gamme et vous dites, chez Zara, c'est bien aussi, j'achète chez Zara.
Ben voilà. Et ce titre, il gagne, il en profite. Hein. Inditex, la maison mère de Zara, 3% de hausse. H&M en profite et gagne 0,8%. En ce moment, une idée de valeur en plus. Obey, nos experts du jour chez FLIG sont positifs à l'achat sur le titre Obey. Ils nous ont expliqué pourquoi, groupe de services numériques. C'était dans Valeur ajoutée, cette séquence est à retrouver bien sûr en replay. 16h50, vous savez que chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées reçues. Et aujourd'hui, notre résistant face au consensus, c'est Thibaut Prébé, l'auteur de Démographie, la bombe tranquille, c'est aux éditions du Rocher. Il nous rejoint, stratégiste de marché, économiste. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Dans une grosse semaine, SpaceX va s'introduire en bourse et c'est bien, c'est un bon moyen de booster encore le Nasdaq, ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que certains pensent. Pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez, Thibaut, cette idée que SpaceX sera un moteur de plus pour le Nasdaq.
Oui, absolument. Je pense que c'est peut-être même un peu la fin d'un cycle de bulles et que cette introduction de SpaceX est un bon point pour essayer de ramener tout le monde à la raison.
Qu'est-ce qui vous rend si prudent sur SpaceX, ramener tout le monde à la raison? Voilà, c'est quoi les
les points faibles, en gros, de cette introduction?
Le premier point, c'est que la valo est complètement débile. C'est-à-dire que le principe, quand même, d'un titre, c'est de gagner de l'argent dessus. Si on a une valo qui n'est même pas raisonnable à atteindre dans des scénarios hyper favorables, on voit pas comment on gagne de l'argent. Pour prendre un exemple, en comparant à la darling des marchés, qui est Nvidia, faut se rappeler qu'on parle d'une valo qui est quatre fois plus forte par rapport au chiffre d'affaires. Pour une société qui est déjà pas donnée, parce que, mais pourquoi elle est pas donnée? Parce qu'elle a des marges colossales. Et on parle de 50 milliards de résultats plus au dernier trimestre pour Nvidia contre 4 milliards de pertes pour SpaceX. Donc, on est déjà dans des comparaisons qui existent même pas. Et au-delà de ça, Nvidia a plus de croissance que SpaceX. Et donc, en fait, on comprend pas bien pourquoi faudrait acheter une société qui a un risque technologique d'un secteur qui a des marges beaucoup plus faibles, beaucoup plus chères qu'une société qui, elle-même, est déjà le mieux sur tous les aspects. Donc, il n'y a aucun moyen en valorisation de justifier. Ce que disent les gens en général, c'est qu'on arrive, en étant optimiste, à justifier à peu près un dixième de la valorisation actuelle. C'est grotesque.
Un dixième, ah oui, effectivement. Elon Musk, on aurait pu penser qu'il jouerait les repoussoirs, quoi. Il y a quelques mois encore, Elon Musk, personne ne voulait acheter de Tesla en Europe. Et puis, on voit depuis quelques mois les ventes de Tesla rebondir ici en Europe et Elon Musk un peu moins faire polémique. Est-ce que pour SpaceX, ça, c'est quand même une bonne nouvelle, le fait qu'Elon Musk soit un peu moins, urticant?
Elon Musk, c'est une religion. Quand c'est une religion, quoi que dise la star, personne ne conteste. C'est comme ça. Quand je viens ici parler économie, sans vouloir critiquer cette émission sur X, tout le monde s'en fout. Il suffit de critiquer une ou deux fois Elon Musk et on prend des tombeaux d'insultes. La réalité, c'est quand il dit qu'on va faire une colonie de 100 millions de personnes sur Mars, c'est complètement débile. Les scientifiques disent qu'il faudra entre 10 000 et 10 millions d'années pour que Mars puisse être habitable. Si vous y allez sans que ce soit habitable, bah, vous faites une cloche, quoi. Mais si c'est une cloche, autant la faire sur la Terre. Et puis, qui aurait intérêt à aller partir sur Mars pour vivre sous une cloche? Donc, ça n'a aucun sens. Mais les gens y croient. Alors, c'est une stratégie de l'outrance. C'est comme si vous arrivez à un
point d'embauche. Il y a bien des gens qui vont au Sutton Park le week-end, ils vivent sous une cloche.
Ouais, c'est pas tout à fait la même chose quand le voyage dure déjà un an et que c'est pour rester. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est comme si vous avez un entretien d'embauche et vous dites, moi, je veux 1 million de bonus si je triple le chiffre d'affaires de la boîte. Les gens vont se dire, bon, il est débile, mais peut-être quand même qu'il est confiant et qu'il est bon. Prenons l'exemple de Tesla. Ce qui est important quand on est outrancier, c'est d'être crédible. Je vous rappelle que en 2021, Musk dit, en 2030, on vendra 20 millions de Tesla par an. Au bout de 5 ans, on est à 1,6 million en décroissance et à prix cassé. Donc, on va même pas arriver au dixième des prévisions que donnait Elon Musk. Et malgré ça, on repart sur un nouveau round. Donc là, on est dans la religion. Voilà, sur les marchés en général, si vous faites le dixième de ce que vous avez dit, vous passez dans les poubelles de l'histoire financière et plus personne ne vous écoute. Là, on est à l'inverse. Donc, je pense qu'il y a une forme, encore une fois, de croyance sur Elon Musk qui sert à justifier n'importe quel valo. En général, ça finit mal.
Julien.
Après, on raisonne à l'instant T. Si on regarde l'exemple de Tesla, vous avez raison sur les 5 dernières années. N'empêche que Tesla, quand ça s'introduit en bourse en 2010, ça vaut 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça en vaut 1 400. Le chiffre d'affaires de Tesla sur l'année 2010, c'est 90 millions de dollars. C'est 90 milliards de dollars actuellement. Il a quand même multiplié par 100 son pari dans l'électrique, personne n'y croyait. Donc on peut penser que cette espèce de culte de cette secte, si je me mets les guillemets, mais alors, les gens y croient pour une certaine raison, et que quand le marché y croit, c'est difficile d'aller contre lui. Par ailleurs,
je rêve où vous défendez Tesla. Non, d'habitude vous assassinez Tesla. Non, alors aujourd'hui, vraiment, je suis surpris là.
Le principe du bullshitomètre, c'est d'avoir des gens qui prennent le contre-pied.
Oui. Et le contre-pied de soi-même. Non, mais vous défendez Tesla là.
Oui, juste la première fois. Et demain, je brûlerai Tesla. Qu'importe. C'est juste un point à souligner. Okay. Et il faut quand même aussi dire une chose, c'est que là, vous parlez si on parle de SpaceX au début, vous avez des banques conseils qui vont acheter l'action. Vous avez tout, et qui m'ont soutenu aussi dans les premiers jours. L'action va arriver dans les ETF. SpaceX qui s'effondre lors des premiers jours.
En fait, mais justement, c'est pour ça que pour moi, c'est un vrai changement. Déjà, la première chose par rapport à ce que vous disiez, je vais prendre à votre jeu. Vous me dites, Musk a fait un truc super, tout le monde est d'accord. Pas que, hein. Mais, on introduirait demain SpaceX à 80 milliards de dollars, à 150 milliards de dollars. Ce serait le même narratif. Ce serait quelqu'un qui a réussi des choses avant et qui lève des fonds. Le problème là, c'est pas que SpaceX ait un potentiel, c'est pas que Starlink soit une réussite et que ça vaille de l'argent. C'est 1850 milliards. On est dans un truc qui n'a aucun sens, donc c'est de la religion. Alors, là où ça peut péter, c'est qu'effectivement, on a des ETF qui vont devoir mettre un des plus gros poids de l'histoire pour une intro très vite dans le Nasdaq, parce que comme ce sera une des 40 plus grosses capitalisations, ils vont pouvoir rentrer très rapidement. Mais, une fois que ce sera fait, avec des ETF qui peuvent y laisser des plumes pour essayer de répliquer la performance d'un indice qui est très difficile dans un marché illiquide, on a des gens qui ont des clauses de sortie beaucoup plus tôt que d'habitude. Des lock-up beaucoup plus tôt, sauf d'ailleurs pour Musk. Et comme la valorisation est complètement débile pour tous les gens qu'on a déjà, on peut avoir un intérêt quand même assez fort à sortir. Donc on peut très bien avoir une envolée. Justement, les gens un peu crédibles, on a l'histoire de GameStop, tout ça qui est un peu dans le côté de masse, qui après se font rincer. Et là, ça peut permettre de se poser la question de est-ce qu'on n'est pas parti dans une bulle ? Et pour tous les suivants qui vont s'introduire sur des valos complètement débiles, ça peut être un problème. Donc je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il puisse y avoir un effondrement les premiers jours. En revanche, je pense qu'il va y avoir une douche derrière qui va calmer un peu ce marché qui est parti dans quelque chose d'un peu hystérique, et je pense que cette idée du Messimus, c'est sympathique, mais ça fait déjà 10 ans que c'est cramé comme histoire. On a tous vu comme il a vrillé, on a vu les insultes avec Donald Trump. Je vous rappelle aussi que, par exemple, quand il décide d'acheter Twitter, la veille de l'annonce, son frère vend toutes ses actions, ça passe nickel, hein. Tous les financiers français sauraient qu'il serait déjà en prison 2 jours après.
Ben oui, donc, mais il est aux États-Unis.
Voilà, il y a un truc assez improbable. Ouais. Moi, je pense que c'est une histoire qui va probablement mal se finir, et ça fera du bien, parce qu'il faut rester un peu cohérent. Acheter une société à un prix que personne n'arrive à justifier, deux fois, quatre fois ou cinq fois moins, ça n'a pas de sens, mais c'est le symptôme de l'époque.
Et si, dans le sens où 80% de la valorisation de SpaceX, alors d'accord, il y a les fusées, et là, je me demande comment on peut valoriser un tel niveau de bénéfice, même s'ils récupèrent les fusées à chaque fois, comment on peut valoriser une société autant, alors qu'elle crame autant de cash. Mais parallèlement, il y a l'intelligence artificielle, et c'est 80% de l'activité de SpaceX quasiment. Donc là, on entre dans une deuxième secte. Il y a la secte Musk et il y a la secte de ceux qui pricent ça n'importe comment. Donc ça...
Ouais, mais soyons cohérents. Là, pour le coup, on a des comparables. Aujourd'hui, tout le monde vous dit que Grok, c'est à la ramasse par rapport à Anthropic, qui envisage 1000 milliards. Donc si vous dites que toute la valeur, c'est l'IA, bah, vous ne pouvez pas justifier de valoriser ça quasiment le double d'Anthropic. Donc, cher, de toute manière, valo débile pour valo débile en comparant à d'autres valo débiles, c'est encore trop cher. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la vraie valeur fondamentale de ce groupe, c'est Starlink, hein, c'est la seule activité qui est rentable, qui gagne de l'argent, etc. C'est une activité qui a généré tous les bénéfices d'il y a 2 ans, avant qu'on commence à cramer avec la partie IA et SpaceX. Aujourd'hui, c'est impossible de justifier ça, mais pour autant, quand c'est déjà trop cher par rapport à des pairs qui sont eux-mêmes trop chers, il y a un moment où il faut commencer à se détendre.
Oui, non. Et vous souhaiteriez presque l'échec. Donc, non, mais c'est un peu ça, pour ramener le marché, une forme de raison.
Pas l'échec.
Pas pour que les gens soient rincés, mais voilà.
C'est juste éviter que les gens perdent trop d'argent.
Mettre à l'endroit, quoi. Que les gens perdent trop. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas que ça monte trop vite, trop tôt. Il faudrait très vite que ça baisse.
Bah oui, parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent, les mêmes qui se font avoir. Donc, si on peut éviter d'aller faire n'importe quoi, c'est mieux.
Et un homme averti en vaut deux.
Juste un point de précision, quand on dit que SpaceX fait des pertes, alors le 4 milliards que vous donnez est tout à fait juste, il faut voir que, sur les 4 milliards, vous avez 6 milliards de pertes, en fait, qui viennent d'XAI. Vous enlevez XAI, SpaceX est rentable, parce que vous avez 300 millions de pertes sur SpaceX, qui, à proprement parler, et effectivement 2 milliards de bénéfices, un peu plus sur...
Attention quand même, parce que l'année dernière, ça perd 4,5 milliards, sur le T1, ça a déjà perdu 4,5 milliards. Donc on est en plus pas forcément en ralentissement des pertes, quoi.
Vous restez avec nous, Thibaut, ça vous dit ?
Avec plaisir.
D'entrer dans cette dernière demi-heure de cotation, il reste quoi ? Une demi-heure, et jusqu'à la clôture des marchés, on va entrer, on va vivre cette dernière ligne droite tous ensemble. Merci à Julien Marion qui nous accompagnait. L'article consacré à Inditex, la maison mère de Zara, est disponible en ligne sur l'application BFM Business et aussi Valeo, sur lequel vous êtes en train d'écrire l'article.
Oui. Ah, c'est pas, j'avais pas vous dit qu'il est disponible.
Il sera très vite disponible. On n'a jamais été proche, aussi proche, du moment où il va être publié sur le site BFM Bourse.
Oui, Valeo.
Non, parce que vous passez pas mal de coups de fil, etc. Et là, vous allez apporter pas mal de détails, effectivement, sur ce qui, dans les sous-jacents, peut justifier la hausse du jour ou au contraire ne pas la justifier. Article à suivre. Dans un instant, donc, dernière demi-heure sur les marchés avec Thibaut, l'ensemble de nos experts, c'est BFM Bourse. Jusqu'à 18h. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.